Garnison. Garnison et garnement sont un même mot, avec des finales différentes et avec une signification primitive identique. Ils expriment tous les deux ce qui garnit, vêtements, armures, provisions. Longtemps, ils n'ont lu l'un et l'autre que cette acception. Mais dans le cours du parler toujours vivant et toujours mobile, on a vu ce qu'il est advenu de garnement, qui n'a gardé aucune trace du sens qui lui est inhérent. La transformation a été moins étrange pour garnison. Du sens de ce qui garnit, il n'a pas très loin au sens d'une troupe qui défend, garnit une ville, une forteresse. Et quand on lit par exemple une phrase comme celle-ci, le plus méchant garnement de la garnison, quel est celui qui, sans être averti, imaginera là qu'il a sous les yeux deux mots de même origine et de même acception première. Gauche. L'ancienne langue ne connaît que sénestre, en latin sinistère. Puis, au XVe siècle, apparaît un mot, gauche, signifiant qu'il n'est pas droit, qui est de travers. Au XVe siècle, sénestre commence à tomber en désuétude. Et c'est à gauche qu'il le remplace. Pourquoi? Peut-être parce que le sentiment de l'usage attachant une infériorité à la main de ce côté, sénestre, n'y satisfait pas. Il y avait satisfait dans la latinité, car sinistère a aussi un sens péjoratif que nous avons conservé dans le vocable moderne sinistre. En cet état, l'usage se porta sur gauche, qui remplit la double condition de signifier opposé au côté droit et opposé à adresse. L'Italien, mu par lui-même mobile, a dit la main gauche de deux façons, stanca, la main fatiguée, et manca, la main estropiée. Geindre. Geindre est la forme française régulière que doit prendre le latin gemere. Avec l'accent sur la première syllabe, gemere n'a pu fournir qu'un mot français où cette même première syllabe eut l'accent. Mais à côté, dès les anciens temps, existait gémir, qui provient d'une formation barbare, gemere aux yeux de gemere. Les deux verbes, l'usage moderne ne les a pas laissés synonymes. Suivant la tendance qu'il a de donner à la forme la plus archaïque un sens péjoratif, il a fait de geindre un terme du langage vulgaire, où le gémissement est présenté comme quelque chose de ridicule ou de peu sérieux. Au contraire, gémir est le beau mot, celui qui exprime la peine morale et la profonde tristesse. Gente, G-E-N-T, substantif féminin. Il est regrettable, je dirais presque douloureux, que des mots excellents et honorables subissent une dégradation qui leur inflige une signification ou basse ou moqueuse et qui les relègue hors du beau style. Gente en est un exemple. Encore au commencement du XVIIe siècle, il était d'un usage relevé. Et Malherbe disait la gente qui porte turban, le cardinal du Perron une gente invincible au combat, et Segrais cette gente farouche. Aujourd'hui, cela ne serait pas reçu. On rirait si quelque chose de pareil se rencontrait dans un vers moderne de poésie soutenue, car gente ne se dit plus qu'en un sens de dénigrement ou qu'en un sens comique. À quoi tiennent ces injustices de l'usage? À ce que gente, tombant peu à peu en désuétude, est devenue archaïque. Et sous ce prétexte, on l'a dépouillé de la noblesse, et on en a fait un roturier, ou un vilain. Gourmander. Gourmander, verbe neutre, signifie manger en gourmand, et ne présente aucune difficulté. C'est un dérivé naturel de l'adjectif. Mais gourmander, verbe actif, signifie réprimander avec dureté ou vivacité. Comment cela et quelle relation subtile l'usage a-t-il saisi entre les deux significations? Heureux, malheureusement, gourmand, ne paraît pas un mot très ancien, du moins le premier exemple connu est du XIVe siècle. De plus, l'origine en est ignorée. Ces deux circonstances, toutes à la déduction des sens, sont meilleur appui. Pourtant, une lueur est fournie par M. Émile Deschamps, écrivain qui appartient au XIVe et XVe siècle. Il parle d'une souffrance qui vient chaque jour vers la nuit pour son corps nuire et gourmander. Gourmander signifie ici léser, attaquer. Et faut-il penser que de l'idée de gourmand attaquant les mets, on a passé à l'idée de l'effet de cette attaque, et qu'on a fait de la sorte gourmander, synonyme jusqu'à un certain point de nuire et d'attaquer. Cela est bien subtil et bien fragile, mais je n'ai rien de mieux. Gourmander est un problème que je livre aux curieux de la dérivation des significations. C'est une partie de la lexicographie qui a son intérêt. Greffe. Le greffe et greffe la greffe. Parmi les personnes étrangères aux études étymologiques, nul ne pensera que le greffe d'un tribunal et la greffe des jardiniers soient un seul et même mot. Rien pourtant n'est mieux assuré. Les deux proviennent du latin graphium, poinçon à écrire. On sait que les anciens écrivaient avec un poinçon sur des tablettes enduites de cire. De poinçon à écrire, on tire le sens de lieu où l'on écrit, où l'on conserve ce qui est écrit. Voilà pour greffe du tribunal. Mais c'est aussi d'un poinçon que l'on se sert pour pratiquer certaines hantes. De là, on tire l'action de placer une hante et le nom de hante elle-même. Voilà pour la greffe des jardiniers. Heureusement, l'usage a mis par le genre une différence entre les deux emplois. Grief, grièvre. Grief nous offre une déformation de prononciation. Il représente le graphe du latin gravis, qui est monosyllabique. Et pourtant, il est devenu chez nous dissyllabique. C'est une faute contre la dérivation étymologique, laquelle ne permet pas de dédoubler un A de manière à en faire deux sons distincts. Cela a été causé par une particularité de la très ancienne orthographe. Dans les hauts temps, ce mot s'écrivait greffe ou grief, mais était sous la seconde forme monosyllabique, comme sous la première. Comment prononçait-on grief monosyllabe? Nous n'en savons rien. Toujours est-il que dans les bas temps, l'orthographe grief ayant prévalu, il fut impossible de l'articuliser facilement en une seule émission de voix. De là est né le péché fameux contre l'équivalence des voyelles en gravis dans le passage du latin au français. Griffonner. Ce verbe est un néologisme du XVIIe siècle. On a bien dans le XVIe un verbe griffonner ou griffonnier, mais c'est un terme savant qui se rapporte au griffon, animal fabuleux qu'on disait percer la terre pour en tirer l'or. Griffonnier l'or, lit-on dans Colibre. Pourtant, l'origine de notre griffonner remonte au XVIe siècle et est due à un joli néologisme de Marot. Il nomme Griffon un scribe occupé dans un bureau à barbouiller du papier. Griffon, en ce sens, n'a pas duré. Nous l'avons remplacé par griffonneur. Comment Marot a-t-il imaginé la dénomination plaisante que je viens de rapporter? Sans doute, il n'a vu dans le barbouillage du scribe qu'une opération de griffe. Et dès lors, le griffon, armé et pourvu de griffes, lui a fourni l'image qu'il cherchait. Grivois. Un grivois, une grivoise, est une personne d'un caractère libre, entreprenant, alerte à toute chose. Mais bien déçu serait celui qui rechercherait directement l'étymologie. Le sens immédiatement précédent, qui d'ailleurs n'est plus aucunement usité, est celui de soldat en général. Le soldat se prétend par son allure déterminée à fournir l'idée, le type de ce que nous entendons aujourd'hui par grivois. Est-ce tout? Oh non, pas encore, et la filière n'est point à son terme. Avant d'être un soldat en général, le grivois fut un soldat de certaines troupes étrangères. Encore un pas et nous touchons à l'origine de notre locution. Le grivois des troupes étrangères était ainsi nommé parce qu'il usait beaucoup d'une grivoise, sorte de tabatière propre à râper le tabac. Grivoise est l'allitération d'un mot suisse, rabeissen, râpe à tabac, proprement fer à râper. Quel long chemin nous avons fait, et quelle bizarrerie, certainement originale et curieuse, à tirer d'une espèce de râpe un mot vif et alerte, qu'il n'est pas déplaisant de posséder.